on n'en a pas encore parlé ici dans la presse en Belgique, mais Yannick Kuskiewicz, si je prononce bien votre nom, monsieur Kuskiewicz, vous êtes le directeur des droits de l'homme et des droits syndicaux chez la Confédération syndicale internationale ici à Bruxelles, hein?
Tout à fait correct.
Bon, la Guinée. J'ai trouvé sur votre site, et je pense que votre site est le seul en Belgique qui doit mentionner qu'il y a une grève générale en Guinée depuis le 10 janvier. Depuis 10 jours quand même, ça fait un petit temps et on n'en parle pas ici dans la presse. Qu'est-ce qui se passe ici exactement en Guinée?
Oui, tout à fait étonnant qu'on n'en parle pas dans la presse belge et même la presse française en parle très très peu. En Guinée, depuis 10 jours, comme vous l'avez dit, il y a une grève générale organisée par l'intersyndicale et en fait par tous les syndicats du pays contre la corruption à l'origine et contre l'intervention en particulier du président de la République, Alassane Conté, dans les affaires judiciaires. Mais ça, c'était il y a 10 jours au moment où la grève générale a commencé. C'est déjà la 3e grève générale en moins d'un an. Et aujourd'hui, on en est à l'insurrection populaire. Je ne peux pas dire que c'est déjà la révolution, mais à mon avis, on n'en est pas loin.
Oui, oui, je voulais le dire, parce qu'il y a eu des morts déjà. Il y a eu plus de 300 arrestants. On a tiré à balles réelles aussi. Bon. Et ce n'est pas seulement dans la capitale qu'on a crié, hein.
Non, pas du tout. Encore ce matin, on a arrêté plusieurs dizaines de manifestants à Ntérékoré, la deuxième ville du pays, une ville essentielle à la frontière du Libéria. Dans beaucoup de villes provinciales, en fait, il y a eu des manifestations violemment réprimées par la police et par la gendarmerie. Donc c'est vraiment un mouvement qui s'est étendu très rapidement à tout le pays. Et il faut dire que la population est visiblement derrière le mouvement syndical, puisque même les partis politiques d'opposition ont rejoint le mouvement maintenant, et tout le monde appelle à un changement de gouvernement.
Ouais. Ça a commencé avec des manifestations. Bon, l'année dernière, il y a eu, c'est pas la première fois qu'on manifeste en Guinée, qu'on a écrit contre la vie chère. C'était des manifestations au départ, mais aujourd'hui, on demande carrément que le président il souhaite, comment on dit cela officiellement, qu'il soit incapable, qu'on dit finalement qu'il est incapable de gouverner le pays. Hein.
Que le président démissionne, c'est ça.
Effectivement, depuis quelques jours, les syndicats ont mis en avant cette demande, cette exigence. Ils se sont adressés au président de l'Assemblée nationale pour demander que le Parlement, que l'Assemblée nationale déclare ce qu'on appelle la vacance du pouvoir, et cela pour essentiellement, officiellement en tout cas, des raisons de santé, puisque on sait que le président de la République guinéenne, Alassane Conté, qui est assez âgé, il a plus de 70 ans, est gravement malade. C'est un chain smoker, comme on dit, un fumeur invétéré. Il souffre de diabète et c'est quelqu'un qui ne se montre pas beaucoup en public depuis des années. Mais au-delà de ça, c'est aussi contre la corruption généralisée, contre l'injustice sociale que les syndicalistes, et avec eux une très grande partie, sinon la majorité de la population guinéenne, est en train de manifester.
Parce qu'en décembre, le président Conté, il a en fait libéré deux de ses amis.
Ben, écoutez, tout à fait, il a fait libérer personnellement, il est allé à la prison centrale de Conakry pour ordonner aux autorités de la prison de libérer Mamadou Sylla, qui était le président du patronat, donc le patron des patrons guinéens.
Et l'homme le plus riche aussi.
Et l'homme le plus riche du pays, effectivement. Accusé d'avoir puisé dans les caisses du pays, de même que l'ancien ministre des Finances, si je me souviens bien, Fodé Souma, accusé de corruption, de détournement de fonds publics. J'ai vu dans un communiqué aujourd'hui qu'on l'accuse d'avoir construit des villas en France et à Dakar notamment, et d'avoir un compte en Suisse très bien garni. Et c'est bien le président Alassane Conté qui a ordonné personnellement leur libération alors qu'ils avaient été emprisonnés sur ordre de la Cour suprême. Donc cette intervention du pouvoir exécutif et au plus haut sommet de l'État dans les affaires judiciaires, c'est quelque chose qui a rendu fou de rage les syndicalistes qui, eux, sont confrontés à l'injustice sociale, à la pauvreté. C'est un pays, la Guinée, qui est potentiellement extrêmement riche, puisqu'il est très riche en ressources minières notamment, et qui est en fait un des pays les plus pauvres d'Afrique, et paraît-il aussi, d'après l'organisation Transparency International, le pays le plus corrompu en Afrique.
Ouais, c'est pas un record pour en être fier.
Non, malheureusement. C'est le plus grand producteur au monde de bauxite, qui est la matière première avec laquelle on fabrique l'aluminium, qui est donc une matière première extrêmement recherchée. Et c'est un pays qui, d'après le classement de la Banque mondiale de 2006, a comme revenu par tête d'habitant, revenu annuel $370.
Je suppose que vous avez des contacts aussi sur place, mais comment va continuer cette grève? Parce que, bon, même s'il y a eu des violences des forces de l'ordre, bon, les manifestants, il y en a de plus en plus.
Effectivement, il y a certainement un mouvement populaire qui a rejoint maintenant et peut-être même dépassé les organisations syndicales, puisque aujourd'hui à Nzérékoré, c'était quand même des jeunes manifestants qui se sont attaqués à un poste de police, qui ont libéré d'ailleurs des prisonniers. Mais vous me demandez comment la situation va continuer. Ben écoutez, d'après les derniers. L'intersyndicale CNTG-USTG, il prévoit une marche pacifique pour lundi matin, 9h, avec comme lieu de rassemblement la Bourse du Travail à Conakry, qui est donc le siège des organisations syndicales.
Ouais. Il y a eu aussi le gouvernement a parlé avec les diplomates de l'extérieur, et dans un communiqué, ils ont dit que le gouvernement, il est surpris par l'action des syndicats vis-à-vis leur effort, enfin l'effort du gouvernement, de satisfaire aux demandes des syndicats.
Mais le gouvernement maintenant prétend avoir éliminé certains impôts, certaines taxes, et d'avoir relevé le salaire minimum. Je crois que si le gouvernement avait eu le bon sens de faire ça peut-être l'année passée, ça aurait aidé à garder la situation, disons, plus sous contrôle. Mais je pense que aujourd'hui, ce gouvernement est allé trop loin. Il a encore hier soir le numéro 2 du régime a été limogé. Donc il y a quand même des changements tout en haut du gouvernement. Il y a aussi maintenant quand même un début d'intervention, puisqu'on a appris ce matin que la CEDAO, la communauté des États d'Afrique occidentale, va envoyer une mission avec, si je me souviens bien, à sa tête Abdoulaye Wad.
Le président sénégalais.
Ouais. C'est quand même le signe que les autres États africains regardent avec beaucoup d'inquiétude ce qui est en train de se passer à Conakry. Quant aux manœuvres du gouvernement, ben, je pense qu'à ce stade-ci, c'est tout simplement insatisfaisant, ce n'est pas assez pour calmer le mouvement de rage populaire, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, je pense.
Et qu'est-ce qui peut calmer alors la rage populaire? C'est le démissionnement du gouvernement, je m'imagine.
Ben, écoutez, je pense que les syndicats ont quand même fait pas mal de propositions. On a appris aussi qu'ils avaient été d'accord de s'asseoir aujourd'hui à une table ronde avec le gouvernement pour essayer de trouver une solution pacifique à la crise. Je crois que les syndicats ont fait des propositions assez concrètes sur la manière dont ils voudraient que se fasse une période de transition, puisqu'ils ont proposé au début de la semaine passée que le président Alassane Conté désigne un premier ministre de consensus, mais à qui il pourrait faire confiance. Ce n'est donc pas vraiment une révolution, c'est pas un putsch que les syndicats veulent faire. Ils ont fait des propositions pour assurer une transition dans l'ordre et une transition pacifique. Je ne pense pas qu'ils cherchent une révolution armée, loin de là, mais je pense que chaque jour qui passe rend un peu plus critique la situation et augmente la tension, en fait.
On a entendu aussi cette semaine, c'est comme ça d'ailleurs que nous on a eu ces informations, on a suivi un peu les informations sur Radio France Internationale. Cette semaine, Bemba Souma, le secrétaire adjoint de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, il a pourtant été menacé de mort par le président Conté.
tout à fait personnellement et dans une déclaration très très violente que le président Conte a fait alors qu'il rencontrait les dirigeants syndicaux. Il les a menacés de mort. Il paraît d'ailleurs, suivant un communiqué que nous avons reçu hier de l'intersyndicale, qu'il leur a dit, écoutez, je suis militaire, j'ai déjà tué des gens, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. C'est quand même extrêmement grave qu'un président, qu'un chef d'État adresse des menaces pareilles à qui que ce soit, mais en particulier à des dirigeants syndicaux alors qu'ils sont en train de gérer une grève générale, une grève nationale. Et effectivement, dans toutes les interventions, dans tous les contacts que nous avons eus avec les dirigeants syndicaux guinéens, et on en a tous les jours, ils indiquent qu'ils ont peur pour leur vie, ils se sentent menacés, et il y a évidemment plein d'informations, de rumeurs qui font état de plans très concrets pour l'assassinat des dirigeants syndicaux. Et puis il y a aussi des précédents, puisque Rabiatou, j'oublie son nom de famille maintenant, mais enfin, une des plus importantes dirigeantes syndicales guinéennes a été a échappé de peu à un attentat l'année passée. Voilà, le nom me revient maintenant, c'est Rabiatou Serra Diallo. Elle est secrétaire générale de la centrale CNTG, donc la Centrale Nationale des Travailleurs de Guinée, en rentrant de soins médicaux qu'elle avait eu à Dakar, justement, sa voiture a été attaquée, et le lendemain, une voiture identique à la sienne a été victime d'un attentat à l'explosif, et une des voisines de cette dame a été assassinée vraisemblablement à la place de Rabiatou. Donc ce sont quand même des menaces très sérieuses.
Ouais, donc je voulais en fait vous demander encore comment est ce régime de la Saint-Comté, mais je pense que vous avez très bien répondu déjà à la question. C'est la main de fer.
Écoutez, c'est un régime extrêmement dur. C'est un régime qui est arrivé au pouvoir par un putsch, même si c'était un putsch pacifique. Et quand l'Ansana a pris le pouvoir dans un putsch militaire...
En 84 déjà.
En 84, donc après la mort de Sékou Touré, qui était quand même un des pires dictateurs d'Afrique, il avait promis un retour à la démocratie, et malheureusement on sait ce qui en est arrivé avec un référendum que l'opposition a toujours prétendu être truqué pour lui permettre de se présenter une troisième fois aux élections présidentielles. Ce sont des élections qu'il a gagnées, d'après lui en tout cas, mais ce sont des résultats qui ont toujours été vus avec énormément de suspicion par tant les Guinéens que par l'opinion internationale.
Pour finir, est-ce qu'il y a des réactions des États autres que ceux de la CDAO?
Écoutez, extrêmement peu jusqu'à présent. Nous sommes, je dois dire, consternés à la CSI, à la Confédération syndicale internationale, puisque nous sommes en prise directe avec sur ces événements. Nous sommes en contact continu avec nos centres affiliés en Guinée. Nous avons demandé à l'Organisation internationale du travail, qui est une agence spécialisée des Nations unies, d'intervenir. Elle est intervenue effectivement il y a 3 jours ou 4 jours. Le directeur exécutif du Bureau international du travail a écrit personnellement au président de la République, Lansana Conté. Il a également convoqué l'ambassadeur de la Guinée à Genève, l'ambassadeur de la mission auprès des Nations Unies à Genève, pour lui faire part de sa préoccupation et exiger un retour au calme et l'ouverture d'un dialogue sérieux avec les organisations syndicales. Nous avons demandé également à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international d'intervenir et de donner des instructions dans ce sens à leurs représentants. La Banque mondiale en particulier est un partenaire économique essentiel pour la Guinée. Malheureusement, je pense que le silence des États étrangers, en tout cas de la communauté internationale, mais reflète un petit peu le silence qu'on voit dans la presse. Et personnellement, moi je trouve ça extrêmement regrettable que, alors qu'un pays important d'Afrique, et Dieu sait si ce pays a beaucoup souffert depuis des dizaines d'années, est en proie à un mouvement populaire immense qui risque de se transformer en révolution, à peu près personne n'en parle, et je dois remercier Radio Centrale d'avoir accordé quelques minutes à ce sujet tellement préoccupant.
Et est-ce que vous voyez une raison pour laquelle la communauté internationale ne réagit pas?
Écoutez, honnêtement, non. Effectivement, je pense que s'il y avait des caméras de télévision sur place, ce serait plus visible. Et apparemment, il n'y en a pas. Vous avez cité Radio France Internationale. Vous avez cité, vous n'avez pas cité, mais enfin, on sait que la BBC World Service couvre également le dossier.
Mais peu. Ouais.
Mais peu, effectivement. Mm. Il faut aller sur le site web de la BBC pour trouver des informations. Mais c'est quand même extrêmement important pour les Guinéens eux-mêmes. Dans un tract dans un communiqué de presse que je viens de lire, daté d'hier, publié hier soir par l'international, l'intersyndicale, donc l'entente syndicale guinéenne, ils appellent à écouter les radios privées et les radios étrangères. On sait que la radio nationale, la radio diffusion télévision guinéenne sont totalement aux mains du pouvoir et font ces derniers jours énormément de désinformation les syndicats incitent le public à écouter essentiellement les radios libres et les radios étrangères type Radio France Internationale.
Ouais. On peut toujours le capter ces radios à Conakry
Apparemment les radios fonctionnent, ce qui ne fonctionne pas ce sont les SMS. Les deux opérateurs de téléphonie mobile ont clairement reçu des instructions de la part du gouvernement pour ne pas acheminer les messages textes et c'est extrêmement important parce que apparemment les organisations syndicales utilisent énormément ce système pour communiquer entre eux, pour donner des mots d'ordre de manifestation, prévenir des incidents, etc. Et le gouvernement a trouvé là-bas une cible de choix en coupant ce mode de communication essentiel.
Mmh. Yannick Kouskiewicz de la Confédération syndicale internationale, on vous remercie beaucoup pour votre information intéressante que vous venez de passer. En effet, on est triste de le dire, mais en première sur la radio centrale ici à Anvers. Et nous, de notre part, on peut dire que nous, on va suivre ce dossier sûr et certain. Merci bien.
Je vous